Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, les grandes gueules du sport, votre émission en direct le samedi et le dimanche de 9h à midi. Nous sommes très heureux de passer ce week-end en votre compagnie. Vous êtes certainement en vacances, sur la route des vacances, faites très attention à vous. On va s'occuper de tout, on va tenter de vous divertir, de vous apprendre des choses évidemment et de traiter tous les sujets de l'actualité de cette semaine, mais également de ce week-end. Au sommaire, justement, le cauchemar pour Lyon en Ligue Europa, le PSG pas loin de la catastrophe en Ligue des Champions, la gestion des émotions au cœur de ces deux matchs de Coupe d'Europe cette semaine. Est-ce un mal français, justement, la gestion de ces émotions? Ce sera la une des GG. À 10h, le bras de fer continue entre la LFP et DAZN. Pour les droits télé de la Ligue 1, la semaine a été très mouvementée. On va tout vous raconter. Notre championnat a-t-il encore de la valeur? Et puis, nous avons appris ces dernières heures que Canal pourrait bien faire son retour dans la danse. Et puis, 11h, un invité exceptionnel dans les grandes gueules du sport ce matin, Bernard Hinault, sera avec nous dans le studio RMC. Nous fêtons cette année les 40 ans, rendez-vous compte, les 40 ans de sa victoire sur le Tour de France, le dernier sacre français sur la grande boucle. Le cyclisme a-t-il encore besoin des Français? On se posera la question après ces duels magnifiques. Pogacar, Van Der Poel, Vingegaard. On se posera cette question donc avec Bernard Hinault. Les grandes gueules du sport ce matin, je vous les présente. Une grande gueule qui, bah, justement, qui comme Bernard Hinault, on lui cherche toujours un remplaçant. Simon Dutin, salut Simon.
Salut JC, salut tout le monde. Ah si, ouais. Si c'est aussi difficile qu'en trouver un pour Bernard Hinault, je comprends que...
t'es tranquille pour 40 ans normalement.
Voilà, j'ai un petit peu de temps pour moi.
Ça va Simon?
Ça va, je suis ravi. Le goré, le blaireau en plateau, c'est une animalerie ce matin.
Exactement. Et je vais les présenter dans quelques instants. Ah, il me coupe l'herbe.
Ah, pardon,
sous le pied.
Pardon.
Mais c'est pas grave, ça va quand même fonctionner. Une grande gueule qui, comme Bernard Hinault, on le surnomme le blaireau, mais pas pour les mêmes raisons. Denis Charvet, salut Denis.
C'est gratuit. De toute façon, ça te fait rire, donc c'est pas grave.
Ah, ouais, ça me fait bien marrer aussi. Hein, ouais.
Bon. Ça va, Denis?
Il y a quelques blaireaux autour de la table aussi.
Mais ça, on est bien d'accord, mais il fallait bien que ça tombe sur quelqu'un.
Non, tu n'es pas obligé sur moi. Oui, je le prends pas mal parce que je me sens pas blaireau, donc si tu veux, donc il n'y a pas de problème.
Puis tu m'aimes toujours?
Non.
Plus maintenant. Plus maintenant?
Non.
Bon, en tout cas, je suis très heureux d'être avec toi.
Fais, la, frère, fais la même avec Fred Weiss, tu verras.
Oh, t'inquiète pas, il a...
Oui, mais la même que moi, là.
Oui, mais si c'est la même, c'est moins drôle, on est bien d'accord.
Pourquoi ce serait moins drôle?
Alors déjà, une grande gueule qui, comme Bernard Hinault, comme on dit, tout ce qui descend, j'aimerais pas le remonter à vélo. Philippe Saint-André, salut Philippe.
Salut JC, t'es en grande forme.
Oui. Ça, c'est gentil, avec les rugbyman. C'est pas très méchant, ça.
Non, non.
Oh, bah, il y a un côté
quand même... Il y a eu pire, déjà.
Ouais, il y a eu pire.
Ça tisane, non, avec les rugbyman. Ça
ouais,
va.
Oui, bien sûr.
Ça va?
Je suis en pleine forme.
Sûr.
Content d'être avec vous.
Bon, très heureux. Nous aussi, on est très heureux de te retrouver. Et puis une grande gueule qui, on l'espère, ne va pas tourner dans le biopic de Bernard Hinault. C'est Fred Veil. Salut Fred.
Salut, salut.
On rappelle évidemment que Fred, son chef-d'œuvre, c'est d'avoir tourné dans le biopic de l'abbé Pierre.
Bien sûr.
Juste avant le drame. Donc, Bernard Hinault, si jamais on vous propose Fred Veil, surtout refusez, parce qu'après, ça risque de sentir chocolat.
En même temps, on va pas se mentir, tu veux que je fasse quoi dans un biopic de Bernard Hinault? Pas du vélo. Hein.
Oui, il avait peut-être un... Non, c'est sûr, il avait peut-être un grand garde du corps lui aussi.
Ouais, peut-être.
Voilà, qui était assez costaud, assez physique, comme toi.
Possible.
Bon, mais GG, on va vivre une super émission parce qu'on a beaucoup d'informations à vous donner, on a beaucoup de choses à vous raconter. Donc, merci de votre fidélité. On va débuter tout de suite avec cette citation de Jean-Paul Sartre. J'essaye de me l'expliquer depuis hier, d'ailleurs. Nous appellerons émotion une chute brusque de la conscience dans le magique.
RMC, la une des grandes gueules du sport.
Et but réussi par Klaus Fischer, égalisation, 3 partout, Rouvèche et Tori, but. Et voilà, par 5 pénaltys à 4 donc.
Oui. C'est un match terrible pour les 13 Français qui ont participé à ce match.
Maguire! Oh là 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 là! Ça fait 5 à 4!
Et c'est fini!
C'est terminé dans un scénario complètement dingue. Manchester United se qualifie pour les demi-finales de la Ligue Europa alors qu'ils avaient été menés 2-0.
Et le but, aïe 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 aïe, les Parisiens s'écroulent, les Parisiens s'écroulent.
C'est terminé dans la souffrance, le Paris Saint-Germain qui s'est fait peur.
Neymar, attention, qui a fait une feinte de frappe, qui va se mettre sur son pied gauche, qui va centrer pour Sergio Roberto. Le but, le but, le but, le but, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible.
Non,
j'ai craqué,
j'ai craqué.
Ah oui. On a craqué parfois. Pas tout le temps, mais parfois. Cette semaine, Lyon et le PSG ont fait un tour de grand 8 sur la scène européenne. Mardi, le Paris Saint-Germain a frôlé la catastrophe face à West Ham après avoir mené 5-1 sur l'ensemble des deux matchs. Jeudi, l'Olympique Lyonnais, vous l'avez entendu, a vécu un cauchemar au Théâtre des Rêves face à Manchester United, encaissant 3 buts en 7 minutes en prolongation. Un point commun entre ces deux rencontres. Les joueurs pensaient que c'était gagné avant la fin, quand l'irrationnel devient bel et bien réel. Ce n'est malheureusement pas une première pour le foot français. Là aussi, vous l'avez entendu dans cette production, on pense immédiatement à France-Allemagne, 82 à Séville, à Barcelone-Paris-Saint-Germain en 2017 ou encore à Real-Paris-Saint-Germain en 2022. La musique qui fout les jetons est cette question. La gestion des émotions, est-ce un mal français? Oui ou non? Simon Dutin?
Non.
Fred Weiss?
Oui.
Denis Charvet?
Non.
Philippe Saint-André?
Non.
Ok, vous n'êtes pas d'accord sur cette question. Alors justement, cette gestion des émotions, peut-être même de la prétention, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais Ousmane Dembélé pour le Paris Saint-Germain, Paolo Fonseca pour l'Olympique Lyonnais, eh bien ils en ont parlé cette semaine après leur match.
Bon, on s'est cru trop beau, à 2-1, on a cru que c'était, qu'on était déjà qualifié, que c'était fini. Mais la Ligue des Champions, c'est comme ça. Tu peux tomber contre des équipes, juste devant leur public, avec un public chaud comme ça. Ils peuvent renverser le match, donc il va falloir être plus exigeant pour les demi-finales.
On a célébré beaucoup sur le 4-2. Le match est fini seulement à le dernier moment. Peut-être on a pensé qu'en ce moment on a passé, on a gagné, a manqué un peu d'équilibre émotionnel en ce moment.
On a manqué d'équilibre émotionnel. La gestion des émotions, est-ce un mal français? C'est notre débat ce matin dans les grandes gueules du sport, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. J'ai un oui, c'est Fred Weiss. Pourquoi oui?
Ben, parce que ça nous arrivait déjà très fréquemment. Alors, je vais pas les citer maintenant parce que je pense qu'on donnera des exemples un peu plus tard, et notamment dans mon sport où ça arrivait très fréquemment. Mais c'est exactement l'image qu'on donne en Europe, en tous les cas. Moi, j'ai eu la chance de jouer en Espagne pendant de nombreuses années, et ils disaient toujours, ben, nous, on veut tomber contre la France. Nous, les quarts de finale, on s'arrange pour tomber contre la France parce qu'on sait qu'on va les battre, parce que mentalement ils sont
forcément par
ils sont
rapport aux émotions.
On a vraiment du mal à gérer ces fins de rencontre. On se relâche un petit peu tôt, on n'a pas cet esprit de tueur. En tous les cas, c'est ce que disent tous les pays européens. On n'a pas cet esprit de tueur. En fait, pour finir les matchs, pour bien performer, il faut jouer de la première à la dernière minute. Malheureusement, nous, à un moment, quand on se voit un petit peu trop beau, c'est ce que dit Dembélé, hein, quand on se voit un petit peu trop beau, on a cette tendance. Et de moins en moins, et je trouve qu'on a beaucoup progressé par ça, mais on a quand même cette tendance à se relâcher un petit peu, être un peu moins performant, faire un petit peu moins les efforts. Et on sait qu'au sport, dans le sport, ben forcément, on le paye cash. Et pour moi, c'est un vrai problème.
Le basket aux Jeux Olympiques, ils ont fait le contraire.
Ben, le basket au championnat du monde, ils ont fait ça.
Ça arrive dans toutes les équipes et dans tous les pays.
Les copains, on reviendra sur vos sports respectifs un petit peu plus tard, mais restons sur ce qui s'est passé cette semaine, sur cette gestion des émotions. On l'a déjà vécu dans le foot français, et pourtant on a l'impression on est quasiment prêt à le revoir.
Mais Dembélé, il parle justement du fait de s'être vu trop beau. Donc mais c'est pas, enfin, lui il a vécu comme ça, mais je pense pas que ce soit, il y a une part d'irrationnel qu'il faut prendre en compte quand même dans un match comme ça. Mais donc à un moment donné, t'as le droit aussi de te faire bousculer, d'avoir une équipe qui joue mieux que toi.
Oui, mais Denis, comment t'expliques que tout le monde en Europe considère qu'on est fébrile, justement. Mais,
sauf qu'à la fin, PSG ils sont qualifiés. C'est là où je suis pas d'accord avec vous par rapport aux émotions, parce que dans une période où ça flottait, où il y avait une part d'irrationnel, tu disais ça, ils vont pas s'en sortir. Ça va être encore la remontada. Eh bien, ils s'en sont sortis. Et miraculeusement, mais ils s'en sont sortis. Ça veut dire qu'ils ont appris de leurs erreurs et que cette équipe du PSG, justement, mais par rapport à ces émotions-là dont on parle, ils en ont pas fait fi. Et je pense quand même que c'est normal aussi qu'à un moment donné, tu es aussi, quand tu es sportif, il y a quelque chose qui te... Comment dire, que tu n'arrives pas à capter, quoi, sur le terrain, et que ça te dépasse. C'est ce qui arrive au PSG. Moi, je pensais jamais que cette équipe de PSG serait capable de subir autant en si peu de temps. Pourtant, c'est arrivé. Et ça fait partie du sport.
Ça fait partie du sport, mais à un moment donné, à chaque fois de dire, c'est inexplicable, franchement, c'est irrationnel, on peut pas mettre des mots dessus, à chaque fois, on peut jamais l'expliquer. Il faut quand même tenter d'expliquer. Ces émotions-là, les joueurs parisiens les ont reçues, les joueurs lyonnais les ont eu. Ils ont du mal à les gérer.
Moi, je vois où tu veux nous emmener, j'y sais, mais moi, c'est comme Philippe, je suis désolé, ça arrive partout. C'est, en fait.
C'est pas c'est, que la France,
c'est un mal.
C'est pas la,
c'est
la réputation
sport,
que.
C'est un mal, oui, c'est un mal du sport. Sport, c'est un mal des sportifs, c'est un mal, si tu veux, peut-être de la jeunesse. Ces équipes de Paris et de Lyon, malgré tout, elles sont jeunes, en tout cas dans leur construction, dans leur processus. C'est un mal de l'inexpérience. Mais je veux dire, encore une fois, si tu connais le sport, si tu connais un peu le foot, t'as quand même le droit d'envisager que, qui que tu sois, tu prennes la douche à Birmingham, qui est une immense ville de foot, dans un stade, Aston Villa, qui est un club plus prestigieux avec un plus grand palmarès que le Paris Saint-Germain. On a tendance à l'oublier. Je veux dire, on appelle ça le momentum. Fred connaît bien ça dans le basket. Tu relances, voilà, l'équipe adverse est décidée à tout faire pour survivre. Tu vois, Alain Souchon, dans une de ses chansons, il dit « Nous sommes opiniâtres à ne pas mourir ». Voilà, au bout d'un moment, tu te dis « Bon, bah, c'est maintenant ou jamais ». Tu donnes tout.
Mais c'est il y a des nations, je suis pas d'accord. Il y a des nations qui savent qui ont ça.
Mais non, c'est bien.
Où tu tues le match,
mais non,
où tu restes concentré jusqu'au bout. Je suis désolé,
je le répète, le momentum, voilà, il y a un déclic qui te permet de changer de prise, mais tout d'un coup, il y a un public qui te pousse, il y a une équipe en face qui peut-être doute, en effet,
et si
tu veux qu'on revienne au cas des Lyonnais, encore une fois, on est à Manchester United, à Old Trafford, tu l'as dit, c'est un stade, un des rares stades qui possède un surnom, le Théâtre des Rêves, c'est quand même un monument du football.
Mais à la 113e minute, le stade est mort.
Mais le mal, il n'est pas français, il est de l'inexpérience. Moi, je trouve qu'à 4 buts à 2, ils ont fait 3 fois le tour du terrain. Je pense que Fonseca est comptable de ça. Il aurait dû dire ouais, à ses gars, oui. Les gars, vous arrêtez de déconner. On aurait dit qu'ils avaient gagné la Coupe.
Surtout que lui aussi, il sautait partout. Hein.
Mais exactement. Ouais. Lui, il aurait dû rester sobre, ouais. Tu vois, limite à la Mourinho, aller engueuler, aller chercher les mecs au corner en disant, mais qu'est-ce que vous foutez? Il reste 10 minutes à jouer. Voilà. Et tu le sais, même les commentateurs le sentaient. Si tu prends un but dans les quelques minutes, bon, bah, tu redonnes de l'espoir. Non pas seulement à tes adversaires, mais aussi à tout un public.
Alors mettons des mots dessus, s'il vous plaît, parce qu'on parle de gestion d'émotion. Est-ce que c'est de l'émotion mal gérée, toi l'entraîneur Philippe, toi l'ancien sélectionneur, est-ce qu'à un moment donné, il y a un peu de prétention ?
Non, moi, je pense surtout c'est une force collective. C'est-à-dire que quand tu entraînes, tu vis des remontadas. Et puis des fois, tu te dis non, ça peut pas nous arriver. Alors quand ça t'arrive jamais, c'est quoi ? T'as un vécu collectif important, t'as une force collective, tu sais que physiquement t'es très bien, et t'as les leaders sur le terrain. Et où je reviens, Denis, où je suis tout à fait d'accord avec lui, le PSG, il y a 3 ans, ils auraient perdu ce match.
Là, ils qualifient en tout cas.
Peut-être qu'ils en auraient pris au moins de plus.
Oui, ils en auraient pris un de plus. Là, on voit qu'il y a une force collective, on voit une confiance dans leur jeu, ce que l'Olympique Lyonnais n'ont pas. L'Olympique Lyonnais, ils n'ont pas ce vécu. Alors, où je suis tout à fait d'accord, c'est qu'à un moment donné, quand tu mènes autant à Manchester United, tu dois rien leur donner, tu dois pas leur donner l'espoir de revenir, mais ça se travaille par le manque d'expérience, le manque de vécu collectif. Moi, par exemple, par expérience, à Montpellier, la première année, on perdait tout le temps les matchs dans le Money Time. Et donc, on a travaillé là-dessus. Et l'année du titre, dans les 5-10 dernières minutes, c'était le contraire. Mes joueurs étaient persuadés qu'on allait gagner et on gagnait. Par une force collective, par le fait qu'on avait travaillé énormément physiquement, donc on se sentait très bien physiquement, par le fait j'avais des mecs, des vrais leaders, qui ne paniquaient pas. Et donc, ça se construit. Donc, je suis pas d'accord avec la gestion des émotions. Dans le monde entier, il y a des équipes qui mènent et qui se font reprendre sur la fin. Et ça n'arrive pas qu'aux Français.
Je suis d'accord avec toi, ça n'arrive pas qu'aux Français. Ça n'arrive pas qu'aux Français, sauf que ça arrive beaucoup plus aux Français. Et encore une fois, c'est culturel. Et il y a des pays qui sont loin.
Regarde, tu prends l'exemple de Séville, par exemple. On dit oui, on aurait dû gagner.
En 82.
Mais t'as la t'as l'équipe d'Allemagne qui est monstrueuse en face. On a oublié quand même qu'en face, tu me dis on n'a pas tué le match. Oui, mais t'as Rummenigge qui rentre, qui fait chance basculer. Puis t'as des Allemands, je suis désolé, avec une équipe de génération exceptionnelle.
Mais dans tous les sports, on a ce problème, quand... Denis. Dans tous les sports, c'est pas uniquement en foot. Dans le rugby aussi, quand tu parles match en Angleterre, il y a tellement d'exemples.
Mais les émotions, ça a des limites. Le sport n'est qu'émotion. Mais à un moment donné, ça a des limites. Excuse-moi.
Moi, je voudrais revenir sur la force collective. En tout cas, ce que tu nous dis, Philippe, c'est qu'il y a du vécu ensemble. J'ai l'impression que c'est, et évidemment, toute proportion gardée, j'ai l'impression que c'est une solution de facilité parce que le Paris Saint-Germain, ils peuvent très bien prendre un but et passer à la trappe. Et pourtant, sur une cuisse de Pacho qui arrive à détourner le ballon alors que ça peut filer au fond, on se dit, ah oui, mais c'est parce qu'ils avaient plus d'expérience.
Eh ben, ils ont plus de ressorts.
Non, ils ont plus de
détermination. Oui, et ça veut dire que, avec ton raisonnement, ça veut dire que s'ils prennent un but de plus, c'est parce qu'ils sont français. Bon, excuse-moi, ça ne tient pas non plus debout. Merci, mais bon.
Non, mais à ce moment-là. Non, mais après, la chance, la provoque. Là, je me sens un collègue. La chance, la provoque à un moment. C'est parce que t'es plus dur, parce que t'es plus solide, parce que t'as cette force collective, t'arrives à le faire. Sauf que me dire que le PSG, par exemple, le PSG, je trouve que c'est un très mauvais exemple, parce que justement là, ils s'en sortent, ils s'en sont jamais sortis jusque là. Donc on va pas maintenant dire parce qu'ils le font une fois qu'ils s'en sortent à chaque fois. Les équipes françaises ont malheureusement, mais vous pouvez me dire ce que vous voulez, les équipes françaises ont dans le monde et particulièrement en Europe cette réputation.
Non, mais le PSG, ils ont créé aussi une confiance d'aller d'éliminer Liverpool. Ça a mis une confiance dans le vestiaire incroyable. Donc il y a une grosse différence. Et en championnat, ils dominent, ils marchent sur le championnat français. Ils ont une confiance collective.
Ça a toujours été le cas. Philippe, ça a été toujours le cas. Ils ont toujours marché sur le championnat de France et malgré tout, c'était pas bon. On est en Europe.
Ouais, mais là en Europe, en éliminant Liverpool, surtout en perdant à domicile. Gagner là-bas, putain, on est solide au niveau du jeu, mais on est solide aussi dans la tête.
Et encore une fois, c'est pas parce que t'es français que t'as forcément un moment où, c'est naturel, c'est parce que
la
t'es
culture,
humain.
C'est important. C'est parce que Simon, la culture, c'est très important.
Les concurrents de Teddy Riner, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent le contraire. À chaque fois qu'on va combattre contre lui, il va gagner. Et donc là, on parle pas de gestion des émotions. C'est un mal français, on dit au contraire, c'est une machine. Donc
Et je voudrais pas qu'on tombe évidemment que dans le cliché en se disant que les Français ça leur arrive et pas les autres, mais je voudrais essayer de comprendre ce qui peut se passer là sur cette semaine européenne où nous avons deux exemples. Je le disais, il y a le Paris Saint-Germain qui est passé tout près, on s'y attendait pas du tout, et puis Lyon, c'est invraisemblable ce qui se passe, et ça nous ramène évidemment à d'autres matchs, notamment la remontada ou encore Séville 82. Je le disais, les raisons, toi tu nous parles de force collective pour expliquer ça. Est-ce que vous avez une autre raison à avancer ou c'est juste de l'irrationnel, la faute a pas de chance, c'est le sport, c'est comme ça?
Non, mais effectivement, sur les deux matchs, tu peux te dire qu'ils sont à un moment donné, comme tu parles de momentum, il y a un effondrement. Ils se sont effondrés. Donc c'est vrai que
est-ce qu'ils s'effondrent émotionnellement ou techniquement, tu vois?
Non, mais parce qu'ils se relâchent.
Mais c'est pas que le relâchement, je suis pas d'accord avec toi. À un moment, t'as une force collective, il en parle en face, qui fait que ça te fait déjouer, que quand il te rentre dans la tête, c'est un problème de comment te dire, c'est comme la boxe, c'était un contre un, et puis tu encaisses les coups. Et à un moment donné, le PSG ou Rennes, ils ont encaissé les coups, ils ont pas pu faire face à ça. Donc, tu peux parler d'émotion ou autre chose, mais l'effondrement, il est collectif pour moi. C'est-à-dire que ça peut pas être autrement.
Et surtout, c'est manquer de respect à un adversaire qui est là, en face, encore une fois, t'as le droit d'envisager de prendre un peu la marée, encore une fois, sur la pelouse d'Aston Villa, dans un stade qui fait énormément de bruit, avec des supporters qui, voilà.
Ils font du bruit depuis la première minute, hein.
Ils ont déjà joué dans des salles en Grèce, en Croatie, à un moment donné,
ils vont pas descendre sur, mais évidemment,
tout d'un coup, les shoots se mettent à rentrer, le public en fusion.
Le contexte est très important.
Excuse-moi, bien sûr.
Le contexte est essentiel.
Sauf que je veux bien, l'équipe adverse a le droit de bien jouer, tu as raison, mais à 5-1 sur l'ensemble des deux matchs, si une équipe se relâche, bah forcément tu lui ouvres la porte pour qu'elle puisse revenir dans la partie. Donc c'est ça aussi qu'il faut analyser. On continue d'en parler dans les grandes gueules du sport, restez bien avec nous, et puis on vous attend évidemment au 32-16. Et vous écouterez Luis Enrique hier, qui en a parlé en conférence de presse de cette gestion des émotions. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi,
les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h32 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Denis Charvet, Fred Veil, Simon Dutin, Philippe Saint-André. On va poursuivre le débat sur la gestion des émotions d'ailleurs pendant les quelques minutes de pub. Là, vous êtes très chaud. J'espère que vous avez encore des choses à dire, hein, les copains. Vous n'êtes pas épuisés sur ce débat. On revient évidemment sur des matchs, sur les matchs de Lyon et du Paris Saint-Germain cette semaine qui ont été très chaud pour nos clubs français. Sachez que dans 10 minutes, il y aura le on s'en fout pas. J'ai beaucoup de choses à vous dire, notamment une phrase assez hallucinante de Roberto De Zerbi en conférence de presse hier, quand le club de Mbappé qui descend en national, ou encore Arthur Fils qui va jouer Alcaraz aujourd'hui. Bref, venez nous dire ce que vous en pensez. Vous me direz si ça vous intéresse ou non, les GG. Allez, on poursuit sur la gestion des émotions. Hier, Luis Enrique a été interrogé notamment sur le match de Lyon face à Manchester. On voulait avoir son regard, son avis. Écoutez sa réponse.
Le football, c'est comme ça, il ne connaît pas la justice. Le foot ne connaît pas les mérites des uns et des autres. Une équipe peut renverser un match en 15, 10 ou 5 minutes. C'est l'un des charmes de la compétition. Hier, on a vu Manchester United contre l'Olympique Lyonnais et c'est devenu une folie, même avec une équipe à 10 joueurs. Mais c'est bien, c'est le foot, c'est merveilleux. C'est impossible de gérer ces moments parce qu'ils nous servent à grandir ou pas. Nous aussi, on aurait pu perdre, c'est vrai. S'ils avaient égalisé, on aurait encore grandi davantage. Heureusement, il n'en a pas été ainsi, mais je le répète, c'est ça le foot. C'est ce qui fait que ce sport soit vraiment incomparable et c'est pourquoi il y a ces éléments de passion où l'on voit des résultats absolument inimaginables.
Vous allez réagir, je vous donne mon sentiment. J'en ai un peu marre quand il y a un scénario incroyable de dire c'est le foot, c'est génial. Je veux dire, ça arrive au basket, ça arrive au hand, ça arrive au rugby. Je veux dire, on dit, parce qu'il y a un retournement de situation. Oui, c'est ne jamais mettre des mots sur quelque chose en disant oh mais c'est comme ça, c'est le foot.
Oui, mais donc en fait on le sport, c'est jamais un scénario. Le sport, c'est jamais un scénario qui est écrit à l'avance. C'est là où je suis pas d'accord avec toi. Mais c'est pour ça que c'est magnifique, c'est magique.
Ouais, comme mais le foot, c'est le sport de haut niveau. Eh bien,
le sport de haut niveau, c'est
au biathlon, pareil. La fille ou le mec, ils ont 3 minutes d'avance. Le dernier tir, il loupe 4-5 tirs et il perd la médaille. Ça arrive
mais dans
souvent.
Tous les sports. Que ça arrive, donc, voilà. Que ça arrive, c'est un constat.
C'est pas que le foot, c'est le sport
mais oui,
de haut niveau.
Mais que ça arrive, c'est un constat, il n'y a aucun problème. Mais si on ne met jamais de mots
non, mais pour moi,
sur
mais
ces mots.
C'est un peu léger. Moi, je trouve que c'est un peu léger en disant juste c'est le foot. Non, il y a des explications. Il y a une équipe qui a craqué, qui n'a pas su gérer ses émotions et une équipe qui a commencé.
Mais Fred, il y a un constat qui est simple, l'entraîneur s'est planté, il y a des, évidemment,
je suis même pas sûr que ce soit une question.
Mais si, il y a des facteurs qui rentrent en jeu.
Il y a des facteurs.
Je suis d'accord avec
lui. Mais c'est ça,
par exemple, l'histoire que tu as dit tout à l'heure sur le fait qu'ils se sont embrassés et qu'effectivement, à l'écran, c'était choquant parce qu'on s'est dit, mais il reste encore du temps et qu'ils ne sont pas encore qualifiés. Et bien là, tu sors du match. Alors, est-ce que c'est les joueurs, le staff, tout le club réuni?
C'est l'ensemble, mais c'est l'ensemble. Par contre, c'est l'entraîneur qui doit arriver en disant, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est lui qui doit recadrer tout le monde.
Absolument. Donc, si on veut chercher des explications un peu plus rationnelles, effectivement, ce match-là, Tom Fonseca, il aurait dû jouer son rôle, quoi.
Son rôle qu'il n'a pas joué, en fait. Si c'est l'entraîneur, c'est pas un mal français. Si c'est le club, c'est un mal français. Encore une fois, on en parlait.
Non, mais il veut chercher des raisons.
Le rugby se nourrit encore plus souvent que le foot de retournement de situation comme ça, parce que t'as souvent des équipes qui sont menées de façon un peu inexplicable.
Ça arrive souvent,
période,
bien sûr.
Qui sont pas dans leur match. Et puis au retour, voilà, un essai ou un gros temps fort. Et puis derrière, c'est l'avalanche. En Coupe d'Europe, il y a eu des exemples quand même célèbres. Enfin, ou en tout cas, récent, Tottenham qui avait éliminé l'Ajax. L'Ajax avait gagné 1-0 à l'aller, mené 2-0 au match retour. Et puis Lucas, l'ancien Parisien, avait mis un triplé en un quart d'heure. Bon, et c'est encore une fois, c'est.
Non, mais il y a plein d'exemples.
C'est le foot.
Il y a plein d'exemples, mais là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que parfois, il faut accepter qu'il y a des grandes équipes. Des grandes générations qui fait que quand tu dis on parle toujours du culte de la gagne, ça me gonfle ça, le culte de la gagne. Non mais c'est vrai, arrêtons avec ça. Il y a des générations qui sont meilleures que d'autres et quand tu me dis il y a des pays
des générations qui sont très bonnes et qui gagnent pas,
ton raisonnement il tient pas parce que tous les pays ne sont pas exclusifs dans le fait de gérer ses émotions. Tu vois, tu dis
ben si, mais il y a des pays qui sont à 90%, 94%. Alors oui, bien sûr, ils vont perdre aussi. Ils vont aussi avoir des problèmes d'émotion. Mais c'est pas aussi récurrent.
Mais parce que ça dépend des générations.
Les Français ont ce problème.
Non, mais après, ce qui est compliqué aussi, c'est que des fois, t'as des faillites individuelles, par exemple dans un sport collectif. Et quand tu entraînes, moi, ça m'est arrivé souvent. J'avais des joueurs qui étaient très bons sur des matchs faciles et tu savais que sur des matchs à haute intensité, sur les matchs de muerté, sur des matchs éliminatoires, eh ben il allait faire l'en avant qu'il fallait pas, il allait louper le drop goal ou la pénalité qu'il ne fallait pas.
Et ça, donc, c'est la caractéristique d'un joueur. Est-ce qu'on peut les préparer à vivre ces dernières minutes avec l'émotion évidemment due à ces rencontres?
Alors t'essayes, tu as aussi un accompagnement, tu as souvent de la sophrologie, etc. Mais souvent, et c'est là où tu te dis la différence entre un grand joueur, c'est que le grand joueur, le champion, eh ben il te fait gagner pour les grands matchs, et un bon joueur qui est un mec qui est assez régulier, mais le jour où il faut marquer ou le but ou marquer l'essai pour gagner une grande compétition, eh ben il passe à côté. Ça s'achète pas au supermarché. C'est souvent plus ou moins inné, si tu préfères. Et donc quoi, toi quand t'es entraîneur, il faut que tu essayes de. Des fois tu faisais des équipes. Et sur des matchs importants, bon, ça m'est arrivé par exemple à Sale, où j'avais un ailier qui était incroyable, mais il plaquait pas un mec. Et le jour de la finale, je l'ai pas fait jouer parce que je savais qu'il allait passer à travers. Et j'ai mis un mec qui avait beaucoup beaucoup moins de qualité, mais qui allait s'envoyer comme un chien. Et on a été champion d'Angleterre. Et ce mec, je vais le voir là, il m'en veut à vie. Mais c'était un choix, si tu préfères, rapport à ses prestations sur 2 ou 3 ans. Donc tu es obligé de faire des choix. Donc alors après, il y a plein de choses. Mais tu sais, et toi au basket pareil, tu sais que t'as des joueurs qui vont te mettre le panier à 3 points à la dernière seconde. Et il y en a qui vont jamais le mettre.
Oui, mais sauf qu'il y a des joueurs qui viennent de certaines nations qui ont plus le sang-froid. Par exemple, si je devais choisir quelqu'un pour shooter, je prendrais plus un Serbe qu'un Français.
Ouais, mais bon.
En basket, parce qu'ils ont cette réputation d'avoir du sang-froid. Non, mais ce que je veux dire, par rapport au sang-froid, par rapport à cette capacité à gérer les émotions, je pense qu'un Serbe, par exemple, est plus à même de gérer ses émotions jusqu'à la fin qu'un Français.
Donc, un Serbe n'a pas d'émotion.
Il est plus à même de les gérer.
Est-ce que t'es marqué au fer rouge par l'épisode en Grèce, là, au début des années 2000?
En 2005,
est-ce que tu peux nous raconter?
Évidemment, je suis marqué au fer rouge. Alors, en 2005, juste pour vous rappeler, il y avait un championnat d'Europe qui était justement, en Serbie. On bat les Serbes, donc on est euphorique, on est super content. On arrive en quart de finale, on bat la Lituanie. Et en demi-finale, on est contre la Grèce. La Grèce, on mène à 47 secondes de la fin.
Je l'écoute à la radio.
Donc c'est impossible de perdre. C'est impossible de perdre.
Il reste combien?
Il reste 47 secondes. C'est impossible de perdre.
Impossible.
Sauf que là, on a fait les Français moyens. C'est-à-dire qu'on a été capable de se liquéfier, de perdre des ballons. Et les Grecs n'étaient pas plus forts que nous. Ils étaient d'un niveau tout à fait équivalent. Et c'est pas un momentum. On a donné les munitions pour perdre. Je suis d'accord, mais le momentum est venu à cause de nous, parce qu'on s'est liquéfié.
Et il vient toujours à cause de quelqu'un.
Mais oui, donc on n'a pas réussi à gérer les émotions. On est d'accord.
Est-ce que le coach a bien géré aussi ces 47 secondes?
On s'est tous liquéfiés. C'est pour ça que après, les Espagnols et les Grecs voulaient jouer contre la France parce qu'ils savaient dans les moments difficiles, dans les moments de gestion, on n'était pas capable de gérer nos émotions.
Est-ce que vous êtes vu arriver? Vous êtes vu gagner?
Nous, on était. Alors, objectivement, moi le premier, je pensais qu'on serait champion d'Europe parce qu'on passait les Grecs, on savait que c'était un peu notre bête noire, l'équipe qui était difficile à battre. 7 points d'avance, c'était impossible qu'ils reviennent et on était champion d'Europe.
C'est un peu le même constat qu'avec les Lyonnais, avec les Parisiens, on s'est un peu relâché.
Mais évidemment qu'on s'est relâché.
Mais c'est pas un mal français, c'est un mal de l'inexpérience, c'est un mal encore une fois
de générationnel
dans la construction. Il faut apprendre encore une fois, c'est un
contexte.
Oui, mais pourquoi ça arrive plus aux Français alors si c'est pas un mal français? Comment tu m'expliques ça?
Est-ce que ça arrive plus aux Français?
Oui.
Comment tu peux?
Mais parce que je en tous les cas en basket, je peux vous le garantir pour les Français.
Basket, mais c'est pas
c'est les Français, les basketteurs.
C'est un poncif dans notre business. C'est la défaite qui va te servir pour plus tard. Cette défaite, elle a servi au basket français, comme il y a des défaites qui ont servi au rugby français. Comme cette défaite, évidemment, elle servira.
C'est ce que dit Luis Enrique
et au mec qui était sur la pelouse.
C'est ce qu'il dit, Luis Enrique. Il dit exactement ça. C'est un apprentissage. Mais après, juste pour finir, je pense que on a tous joué au niveau. Le moteur du sport, c'est quoi? C'est la confiance. À un moment donné, tu sais pas pourquoi, tu la perds, cette confiance. Tu sais pas pourquoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as confiance, mais tu as moins confiance. Au sport collectif, au petit copain, c'est encore plus compliqué et complexe à vivre parce que tout d'un coup, tu vois que ton petit copain, il a plus confiance. Tu sais pas pourquoi, ça se liquéfie. Et tout s'en va.
Et ça paralyse l'équipe.
Et puis certains, ils ont toujours confiance. T'as aussi des grands
qui sont inébranlables.
Voilà. Juste avant d'accueillir Geoffrey qui nous appelle au 32-16, est-ce que toi tu vois tes joueurs comme ça s'embrasser, se sauter dessus à quelques minutes de la fin? Est-ce que ça te met en furie?
Non, parce que tu te dis, ils ont tué le match. Alors après, par contre, quand il y a 3-4 buts d'écart, tu dois faire du coaching. Tu, à un moment donné, tu dois, quand tu parles du momentum, il y a des stratégies. Un mec qui se blesse, tu coupes. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place pour casser cela. Et ça se travaille, et ça se travaille, et ça se travaille à l'entraînement aussi. Hein.
Geoffrey au 32-16. Bonjour Geoffrey.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous dans les grandes gueules du sport. On est ravis de t'accueillir. Alors tu en penses quoi?
Bah moi je suis d'accord avec Fred que je trouve un petit peu esselé sur le plateau et que j'en rappelais eu
Tu fais du basket toi?
Pas du tout, je suis 1m65 et je suis supporter du Castres Olympique, Denis. Alors
vas-y Geoffrey.
Je suis de Castres moi donc ça va.
Plutôt profil de pilier, bref. Donc, moi je trouve historiquement déjà qu'il faut différencier sport individuel et sport collectif, parce que voilà, ça n'a rien à voir. Et là on parle d'un club qui se liquifie.
Si ça a
vous parlez. Pour moi, ça n'a rien à voir, et j'explique pourquoi. J'ai l'impression que les Français, quand ils gagnent les grands événements, c'est qu'on est largement au-dessus. Je prends l'exemple de la dernière Coupe du Monde en Russie, on est largement au-dessus. Quand tu regardes la Coupe du Monde 98, c'est le seul exemple où on passe ric-rac contre le Paraguay, ric-rac contre l'Italie, ric-rac contre la Croatie. Là, ok, équipe, grosse force collective, grosse force de caractère. Autrement, regardez ce qui s'est passé à Twickenham. Regardez ce qui s'est passé contre l'Afrique du Sud. Regardez ce qui se passe contre l'Italie avec Materazzi. Il y a des exemples, franchement, j'ai compté, j'en ai 15. Au basket, n'en parlons pas. Et quand t'as un mec de temps en temps qui t'apporte un esprit, pardon, mais Tipeee, il est américain dans sa façon de voir le sport.
Très bon argument.
Et c'est pareil, à chaque fois, quand t'as un mec qui sort du lot, vous dites le PSG cette année, pardon, là aussi, mais l'entraîneur... Ben ouais, l'entraîneur, il est espagnol au PSG, le conseiller, il est portugais, le président, il est qatari. Donc voilà, à chaque fois,
l'apport, il y a derrière. Enfin, le jour de la remontada, Unai Emery, il n'était pas français.
J'entends bien, mais Unai Emery, pour moi, il a une gestion qui est très latine du truc. C'est-à-dire qu'il arrive, pardon, mais c'est comme le Laurent Blanc.
Ben, Luis Enrique, alors c'est très latin.
Ah non, Luis Enrique, il est très latin, certes, mais Luis Enrique, c'est un des premiers...
C'est pas un viking, hein.
C'est pas un viking, mais c'est un des premiers à avoir fait venir des psychologues. Donc là, le psychologue, il travaille avec le mec. Tu crois que Dembélé, là, d'un coup, il empile les bulles, c'est pas un hasard. À chaque fois, nous, les psychologues dans le sport en France, ils interviennent depuis pas longtemps. On est en retard. Alors qu'aux États-Unis, il va voir la NBA, ils voient tous des mecs pour fameux faire le buzzer
beater. Non, mais c'est pas les psychologues qui font le sport. Tu peux pas dire ça là.
Non, je dis pas ça, Denis. Par contre,
ça t'accompagne dans le monde difficile.
Mais ça t'accompagne dans
le monde difficile.
Ça t'accompagne dans les moments clés.
Excuse-moi, t'es sur le terrain. Excuse-moi.
Merci, Geoffrey.
Merci beaucoup.
C'était très intéressant de t'écouter, Fred Weiss. C'était très heureux que tu sois dans cette émission avec nous.
C'est un mec en or que j'ai parfois sur Insta et il est top.
Bon, bah t'as bien raison. À bientôt sur RMC. Merci, cher Geoffrey, dans les grandes gueules du sport.
Tu fais peur.
En tout cas, c'était passionnant de vous écouter les GG là-dessus, sur ce débat de la gestion des émotions. On se retrouve, nous, dans quelques instants pour une sortie assez étonnante de Roberto De Zerbi hier en conférence de presse et puis aussi quand, qui plonge en national le club de Kylian Mbappé. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi.
Oh, la route est à tout le monde, hein.
Les grandes gueules du sport.
Tu sais qui je suis ?
Jean-Christophe Drouet.
Bernard Hinault sera avec nous à 11h. Soyez bien présents au rendez-vous. La légende du cyclisme sera notre invité exceptionnel dans le studio RMC avec ce matin Simon Dutin, Fred Weiss, Philippe Saint-André, Denis Charvet. À partir de 11h, on ouvre une nouvelle fois le dossier droit télé parce qu'on a beaucoup d'informations à vous donner, notamment Canal+, qui pourrait de nouveau entrer dans la danse. On vous explique tout ça. Donc dans une dizaine de minutes, mais tout de suite, on s'en fout pas.
RMC,
le zapping des grandes gueules du sport.
Plusieurs informations à vous donner, l'actualité de la semaine de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première à vous donner, c'est la sortie très étonnante de Roberto De Zerbi hier en conférence de presse. On s'en fout pas. Simon Dutin.
M'en fout pas.
Ok, ça se voit pas. Ça s'entend pas.
Je m'en fous pas.
Ok, merci. Philippe Saint-André.
Je ne m'en fous pas.
Ok, Denis Charvet.
Je veux savoir.
Alors ce soir, l'OM reçoit Montpellier dans un match sous haute tension après la claque reçue à Monaco 3-0 le week-end dernier. Et donc hier, en conférence de presse, Roberto De Zerbi a tenu à effectuer une mise au point. Déjà, l'entraîneur a assuré qu'il donne tout pour le club en vue d'une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Et il en a marre de passer pour un, je cite, un criminel dans les journaux. On l'écoute.
On m'a vendu comme un criminel, ce n'est pas le cas. Depuis le 6 juillet jusqu'à aujourd'hui, je donne tout pour ce maillot et pour ce club. J'ai toujours été professionnel. J'ai parfois fait des erreurs et j'en ferai encore dans ma carrière. Mais ça m'énerve quand des choses qui ne sont pas vraies sortent dans les journaux. Je fais les choses de bonne foi. Je veux juste aider le club à se qualifier en Ligue des Champions, que l'équipe puisse jouer le mardi ou le mercredi soir. Je donne tout.
C'est une heure. Moi, je suis fan hein, des gens qui sont dans la mesure comme ça. Parce que criminel, évidemment, c'est pas du tout exagéré. C'est pas du tout exagéré.
C'est criminel. Provocateur, mais bon, moi, je sais pas, dans sa position.
On rappelle que dans la presse étaient sortis ces propos virulents à l'encontre des joueurs. Les joueurs qui avaient un temps pensé ne pas faire l'entraînement. Finalement, ils y sont allés sur le terrain d'entraînement.
Non, il découvre pas. Les médias, c'est comme ça en fait. Parfois, c'est compliqué. Parfois, ils sont contre toi. Parfois, ils sont avec toi. Parfois, ils ont des infos. Quand ils sortent, en général, quand les médias sortent des infos, qu'elles soient erronées ou pas, il y a des infos.
Mais là, ils jouent avec eux. Ils les provoquent encore une fois.
C'est le lobby. Moi, je trouve ça chiant.
Mais non, c'est pas moi, je trouve ça chiant. Tu trouves qu'il joue là?
Mais bien sûr qu'il joue.
Moi, il vide un peu son sac là. Non, tu sens toute la tension.
Mais non, mais il va dans l'extrême. Il se fait traiter de criminel. Personne n'a traité de criminel, de ce que je sache. Donc
voilà, c'est un peu d'outrance italienne à la sauce du contexte passionné à Marseille.
Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Bon, voilà. Dans le contexte actuel, je pense que c'est une erreur.
Regarde, on est d'accord, Denis. C'est une erreur. Bon.
Il a toujours quand même tendance. On commence à s'y habituer, à en rajouter un petit peu en début de saison. Au premier accro, il avait dit oui, bon, si c'est moi le problème, je veux bien partir.
Absolument. On est là, je crois.
Voilà, que bon, il nous avait vendu un projet sur 2 ou 3 ans.
Là, bon, je suis pas sûr qu'il reste longtemps lui.
Hein. On est fan de l'exubérance. Moi, je suis fan de l'exubérance. Moi, je trouve ça très intéressant. Mais à un moment, c'est pas le moment.
C'est marrant ce que tu dis, Denis, parce que dans la conférence de presse, on a demandé confirmation si vraiment il voulait dire ça, mais il parlait déjà de la saison prochaine en disant moi, je voudrais avoir des défenseurs et tout ça. Si je suis encore là la saison prochaine, c'est la première fois qu'il prenait des précautions oratoires.
Donc, il sent qu'il est sous pression.
Ah. Oui, ou qu'il veuille partir aussi, tu sais pas, là, c'est soit l'un, soit l'autre, hein. Je sais pas, moi, je sens que ce mec, il est entre, puis la rumeur Milan, on dit oui, il n'y a pas de rumeur, il y a toujours une rumeur. Je suis désolé. Alors
mais une nouvelle fois, s'il y a des rumeurs qui sont comme ça, c'est parce qu'il y a une once de vérité quand même.
Et puis, sachez qu'il envisage, je ne sais pas si vous avez vu cette information, c'est dans l'équipe du jour, là. Il envisage de faire une grande mise au vert géante pour les 4 dernières journées de championnat.
Une classe verte, une colo.
Je te jure.
Il va peut-être en Italie
pendant. Demande à Philippe s'il l'a fait. Philippe, est-ce qu'il l'a fait avec ses joueurs?
Une mise au vert géant.
C'est risqué, hein. C'est risqué.
C'est très risqué. Surtout les joueurs maintenant, ils sont tout le temps ensemble. Donc sincèrement, le mieux, c'est à domicile, dormir dans un hôtel. La mise au vert la veille d'un match, c'est une énorme connerie. Surtout quand tu joues à domicile.
Donc une mise au vert d'un mois, c'est une.
Il y a des joueurs qui ne supportent pas la mise au vert. Il y a plein de joueurs.
Mais ça fait un peu objectif commando comme une Coupe du Monde, tu vois.
Non, mais tu peux le faire sur un match, mais sur 4 matchs. Et là, il va se mettre tout le vestiaire à dos.
Mais c'est comme jouer quasiment à l'extérieur. À chaque fois en plus, c'est-à-dire que tu rentres pas chez toi, tu peux pas te ressourcer, t'es à fond dans le truc. Imagine ça se passe mal, bah tu rumines sans arrêt, t'as que ça à faire en fait.
Ok, bon, on suivra cette information, mauvaise idée en tout cas pour vous, on a bien compris. Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est quand le club de Kylian Mbappé qui sombre et qui descend en national, même si évidemment c'était attendu, mais ça y est, c'est officiel. Simon Dutin.
Je m'en fous pas.
Ok.
Je m'en fous pas et je veux écouter Simon.
Ok, Philippe Saint-André.
Je ne m'en fous pas.
Denis Charvet.
Je vais écouter.
Alors, humilié à domicile par Martigues 3-0 hier soir lors de la 31e journée de Ligue 2, Caen est officiellement relégué, je le disais, en national, moins d'un an après le rachat par Kylian Mbappé. Un désastre pour ce club pensionnaire des deux premières divisions depuis plus de 40 ans. Alors, Christophe Lécuyer, tu étais hier soir au stade Michel Dordano et tu as rencontré des supporters furieux.
Tout a été mal fait depuis l'arrivée du clan Mbappé, le rachat du club. Tout a été mal fait depuis le début. Ah, ils sont achetés à jouer, le jouet, il est cassé.
Mbappé, je ne sais pas pourquoi il est là.
La colère des supporters du stade Malherbe de Caen après une nouvelle défaite qui condamne les Normands à la relégation nationale. Un résultat bien éloigné des ambitions affichées par Kylian Mbappé lors de sa reprise du club l'été dernier. Arrivé en cours de saison, l'entraîneur Michel Derzakarian avait un sentiment de gâchis hier soir.
Quand je vois les infrastructures qu'il y a, quand je vois le club que c'est, le public qu'il y a, le stade qu'il y a. C'est dommage de se retrouver à National aujourd'hui. Ouais.
L'ambition portée par l'actionnaire n'a pas pu être assumée par les joueurs qui n'ont gagné qu'à 5 reprises depuis le début de la saison. Un cauchemar pour le milieu de terrain Lorenzo Rajo, le seul joueur à s'être exprimé hier soir.
On a honte, tout simplement. On est passé complètement à côté de notre match, mais c'est sûrement l'image de notre saison, malheureusement.
Dernier de Ligue 2, le stade Malherbe de Caen va donc retrouver le National la saison prochaine. Une troisième division que le club normand n'avait plus connue depuis 40 ans.
Merci beaucoup Christophe Lécuyer. Simon Dutin.
Moi j'ai pas envie de mettre le curseur sur Mbappé à la tête du club, même si et ça c'est un autre débat. Je me demande ce qu'il est venu foutre à Caen et ce qu'il cherchait à ce moment-là de sa carrière.
Ça ressemble un peu à un jouet quand même.
Il aurait pu attendre 10 ou 15 ans avant de s'acheter un jouet. Mais je suis d'accord avec toi Denis, se cacher derrière l'absence, tu vois, de Mbappé, nouveau propriétaire, et de son clan pour expliquer la descente. Voilà. Non, là moi je dis je m'en fous.
ou pas parce que Caen c'est un des clubs de mon enfance quoi, c'est le stade Malherbe, le stade Dornano, tous les joueurs qui sont passés par là, les souvenirs, même on les a connus même en Coupe d'Europe à une époque. Et puis voilà, hier ils étaient 18 000 quand même dans les tribunes, ils sont il y a quand même une...
Et puis voilà, tu peux pas reprocher à quelqu'un
fidèle. Et hier ils prennent 3-0, c'est pas, ils perdent à la dernière minute, non, hein, ils font un match catastrophique. Il y a eu Sochaux avant, il y a eu Strasbourg, y a, je peux en placer les Girondins de Bordeaux. Voilà, ça fait toujours un petit peu mal au cœur de voir ces clubs-là.
Si Mbappé n'était pas arrivé, il serait quand même descendu. Ça c'est la réalité.
Peut-être. Franchement, trop difficile à dire. Je veux dire, ils ont changé 15 fois l'entraîneur dans deux saisons.
Mettre les mauvais résultats de Caen sur le dos de Mbappé, moi je veux bien qu'il ait beaucoup de
pas sur le dos immédiat de Kylian Mbappé, mais c'est lui qui a mis des hommes en place. C'est ça que je veux dire dans la structure d'un club.
Il a mis de l'argent qui manquait.
J'ai une question. Il a injecté beaucoup d'argent.
Il a mis de l'argent, bien sûr.
Il a acheté le club très cher.
Il a acheté le club très cher.
Non, mais déjà, il achète le club très cher, il met de l'argent. Après, bon, que ça marche pas.
Il faut mettre bons hommes au bon endroit, quand même, Denis. C'est un peu facile de dire. Honnêtement, j'ai pas de jugement par rapport à ça, mais c'est vrai que dire simplement Mbappé est arrivé, c'est pas de sa faute, etc. Si lui arrive, il met des hommes en place et que ça marche pas, il a quand même une part de responsabilité.
Attendez, c'est pas magicien Mbappé, c'est parce que c'est Mbappé qui va réussir. Je veux dire, peut-être qu'il s'est trompé sur certaines choix, mais après tu peux pas quand même rejeter tout ce qu'il a apporté et fait pour ce club. Enfin, moi je suis un peu halluciné.
Ça dépend ce qu'il a apporté. Enfin, je veux dire.
Déjà, il a racheté un club qui était quand même en mauvais état.
On est tombé sur d'autres propriétaires pour moins que ça quand même. Hein.
Je ne demande pas de critiquer, je suis pas ami avec Mbappé, mais. Je trouve que c'est facile de tomber sur lui aujourd'hui. Quoi.
Et surtout en ce moment.
Bon, sachez qu'on n'a pas le temps là de parler d'Arthur Fils qui affronte aujourd'hui Carlos Alcaraz en demi-finale à Barcelone. Mais sachez qu'il y a cette demi-finale, on en parlera demain. D'ailleurs, Marion Bartoli sera avec nous dans l'émission. On se retrouve dans quelques instants, mais GG, pour parler des droits télé. Beaucoup d'informations cette semaine et puis ces dernières heures, on a appris que Canal pourrait revenir dans la danse. Pourquoi pas ? Allez, à tout de suite sur RMC, les grandes gueules du sport.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.